Deux jours pour une réunion historique à Kiev, une réunion tenue secrète d'ailleurs jusqu'à la dernière minute, réunion entre les différents ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Est-ce que vous avez dit au président Zelensky que la Belgique allait peut-être bientôt lui fournir des F-16 ?
Cette question m'a été posée de toute façon. Effectivement, tout d'abord, oui, c'était un voyage qui était tenu secret pour des raisons de sécurité et qui envoyait un message très fort au nom des 27 qui se sont tous réunis à Kiev pour dire qu'on était là, solidaires et unis, un an et demi après les frappes contre l'Ukraine. Alors oui, l'Ukraine a toujours besoin d'aide militaire. C'est la première aide dont elle a besoin jusqu'à ce que les deux parties et surtout la Russie accepte de venir à la table des négociations, qu'on puisse mettre fin à cette guerre, parce qu'il faut le répéter, c'est l'objectif premier, je pense, des Ukrainiens et de nous tous, c'est d'arriver à une paix durable, et surtout de montrer à la Russie qu'on ne peut pas envahir un pays comme ça, qu'on ne peut pas bafouer les règles élémentaires du droit international, la charte des Nations Unies, d'autant quand on est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors oui, cette question a été soulevée.
La question des F-16. Pour fournir plus que de la formation et des avions.
Nous avons dit que nous allions demander à la ministre de la Défense ce que j'ai fait, de fournir une analyse objectivée avec différents scénarios possibles pour voir si nous pouvons malgré tout envoyer des F-16. Et je pense que quand on fait partie d'une coalition qui s'appelle coalition F-16, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. On doit pouvoir avoir des données objectives simplement pour prendre une décision qui va peut-être plus loin que de l'entraînement et de la
manutention. Pour l'instant, c'est une posture un peu idéologique, qu'on n'a pas d'objectivation justement de la situation, qu'on manque d'ambition, alors du coup la Belgique.
Je n'ai pas de données à l'heure actuelle en tout cas.
Et donc on ne peut pas se positionner contre
ou pour. Je ne me positionne pas pour ou contre, on veut simplement pouvoir prendre une décision avec des données objectivées
et une analyse tout de même,
qui reprend,
c'est un geste important.
Une analyse qui reprend les différents scénarios. Alors quand j'entends dire par exemple qu'il nous faut ces avions pour protéger notre territoire, je pense que la meilleure façon de protéger la Belgique aujourd'hui, c'est d'envoyer ces avions à l'Ukraine qui, elle, est en guerre. L'Ukraine qui n'est jamais qu'à 2000 km de Bruxelles.
Et qui se tourne vers l'Europe. L'objectif de cette réunion, c'est aussi de continuer de marquer le soutien pour que le soutien, notamment financier, aussi continue. C'est la meilleure carte à jouer pour l'instant. C'est l'Union européenne. C'est pas forcément l'ONU. C'est pas forcément les autres organisations internationales. Vous avez le sentiment que c'est cette carte-là qui est la plus efficace.
Je pense que ce sont deux faces d'une même pièce. D'abord, ça concerne avant tout l'Union européenne parce que c'est le continent européen qui est touché, parce que c'est un pays qui aspire à faire partie de la famille européenne. Et cette réunion à Kiev était aussi pour faire le point sur les différentes manières dont on peut aider l'Ukraine aujourd'hui, les recommandations qu'elle doit en continuer à remplir donc par rapport à son aspiration justement de pays candidat à l'Union européenne. Et puis il y a les Nations unies qui rassemblent là 193 pays, donc on est dans une ampleur différente, et cette guerre a des conséquences dans le monde entier. Comme vous le savez, aujourd'hui la Russie bombarde des ports ukrainiens pour empêcher la livraison de céréales qui sont à destination de pays fragilisés, de pays africains qui risquent aujourd'hui la famine.
Parce que c'est de cela dont il était question aussi il y a deux semaines lors de l'Assemblée générale des Nations Unies auquel vous avez participé. Et pourtant, l'ONU est pointée pour son inaction, mais ce que vous décrivez, c'est qu'il y a un nouveau monde qui se dessine avec cette guerre en Ukraine. Est-ce que tout le monde en est conscient? On a l'impression qu'on est focalisé justement sur l'Ukraine.
Mais je pense que tout le monde en est conscient. On est face à une polarisation du monde. Les Nations Unies se sont créées après la Seconde Guerre mondiale pour un projet de paix rassemblant les pays vainqueurs d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. On est face à une autre guerre qui divise le monde, à laquelle on doit faire face. Et les Nations Unies sont tout à fait conscientes qu'il faut se réformer. Et d'ailleurs, c'était l'objet de mon discours aux Nations Unies. J'ai appelé à repenser les Nations Unies, comme aujourd'hui, d'ailleurs, l'Union européenne doit se repenser en se renforçant d'abord sur ses bases, en rappelant finalement son objectif de prospérité, de sécurité, de bien-être. bien-être des citoyens des 27 aujourd'hui et peut-être demain 33, 35.
Et justement, la transition est là, ce jeudi, hein, ils sont 47, c'est l'Europe géographique qui se réunit à Grenade. Et puis vendredi, ce seront les différents chefs d'État européens qui vont justement se pencher sur l'avenir de l'Union, comment on peut élargir sans faire capoter, entre guillemets, le projet européen. Est-ce qu'il y a une possibilité d'ouvrir l'espace, d'ouvrir l'Union européenne sans la rendre du coup inefficace, inaccessible, impossible à gouverner?
Oui, c'est justement ça, en fait, le challenge, il est là. Je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. On doit regarder ces pays qui aspirent à faire partie de l'Union européenne. Beaucoup sont d'anciens pays du bloc, de l'ex-bloc soviétique, qui sont menacés, qui ont des troupes à leurs frontières. Je pense par exemple à la Géorgie, où je me suis rendue en août, qui a voilà, une zone tampon où des militaires russes sont présents dans des zones fragilisées, indépendantistes, où il y a par exemple la Moldavie, qui fait l'objet de guerres d'influence, de propagande, de manipulation. Tous ces pays veulent faire partie de l'Union européenne. Comment les intégrer sans nous fragiliser? Eh bien, en revoyant notre architecture institutionnelle, nos façons de fonctionner, la façon dont on va partager aussi le budget européen. Donc tout ça, finalement, c'est ce dont on a discuté d'ailleurs à Murcia, qui était en préparation à cette réunion qui a lieu aujourd'hui à Grenade.
Pour l'instant, c'est l'Espagne qui est la présidence de l'Union européenne, et puis ça sera la Belgique. Oui. Ça doit être un des marqueurs, justement, peut-être un moment historique de l'Union, se redessiner. Vous voulez que la Belgique soit justement à l'œuvre dans cette réécriture?
Tout à fait, et je pense que la Belgique, d'ailleurs, a une expertise que tout le monde reconnaît. Nous étions parmi les pays fondateurs dans les toutes premières heures de la création de l'Union européenne. On a cette facilité ou cette aptitude à gérer les complexités institutionnelles.
C'est pas un mythe, ça, vous l'observez concrètement encore sur le terrain, la diplomatie belge a encore toutes ses lettres de noblesse, quoi.
Oui, tout à fait, c'est pas un mythe, et je peux vous dire qu'il y a énormément d'attentes. Ça met un peu la pression en plus, mais voilà, on me le disait encore hier et on me l'a dit à Kiev, on attend beaucoup de la Belgique parce que justement, on a cette capacité à construire des ponts, à trouver des compromis et à construire des architectures complexes. Et c'est ce qu'on va faire, mais ça va prendre des mois, des années, mais certainement, on va commencer ça à partir de janvier.
Et ça
a déjà commencé, puisque, comme vous le savez, c'est un trio, en fait, et donc je travaille déjà avec les Espagnols.
Qui sont pour l'instant à la présidence. Justement de l'Union. Autre sujet d'inquiétude aussi, Adjel Habib, c'est la situation au Congo, des élections qui sont programmées pour le 20 décembre, avec différents candidats, beaucoup de candidats d'ailleurs, mais notamment Denis Mukwege, qu'on connaît bien en Belgique, qui est prix Nobel de la paix, qu'on a beaucoup suivi notamment ici à la RTBF. Ça sera le candidat des Occidentaux. Ça vous rassure qu'il y ait autant de candidats à l'élection? On sait que la Belgique suit toujours ça de très près.
Alors, tout d'abord, je suis heureuse de voir qu'il y ait beaucoup de candidats. Je pense que depuis le début, on a plaidé pour des élections inclusives, participatives, avec le plus de candidats possible. Et donc, que les Congolais s'intéressent à la politique, qu'il y ait beaucoup de candidats, je pense que c'est un signe de démocratisation et de bonne vie de politique. Donc ça, c'est positif. Alors, est-ce que Denis Mukwege sera le candidat de l'Occident? Je pense que ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment il sera perçu par les Congolais et d'entendre leur voix. Je crois que c'est pas ici que le vote va se faire. Bien sûr, Denis Mukwege a une réputation qui dépasse le Congo, mais les élections se jouent là-bas parce qu'il a été prix Nobel de la paix, parce qu'il a ouvert cet hôpital de Panzi. Maintenant, c'est les Congolais qui doivent se prononcer.
Et nous aussi, il y aura des élections en 2024.
Oui, tout à fait.
Vous ferez partie de la campagne électorale, Adjel Habib. Vous allez vous mobiliser sur le plan national?
Mais pour l'instant, je me mobilise à 100% en tant que ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires européennes aussi. Et donc, ça veut dire une présidence qui se prépare jusque après les élections.
Et donc, je me mettrai.
Non, pas du tout. Mais je mettrai là où je serai utile, où mon expertise sera utile pour servir les citoyens belges.
Est-ce que Georges-Louis Boutet est le président utile pour le MR? Est-ce qu'il doit le rester?
Je pense qu'il est président à l'heure actuelle. Je crois qu'il y a un débat qui doit se trancher en conseil du MR et que je crois que tout ce qui est important, c'est que ce soit un choix qui soit supporté par la majorité.
Merci Adjel Habib pour cette